Bonjour Bertie.
Bonjour, bonjour.
Alors tu es l'auteur de Nelson, hein, le diablotin qu'on trouve chaque semaine dans Spirou. Juste une question, est-ce que tu sais comment je pourrais faire pour me débarrasser d'un démon ?
Non, malheureusement pas. J'ai pas trouvé encore. La maison est envahie de petits démons. Et puis j'ai pas trouvé, mais je cherche mollement parce qu'en fait c'est des démons qui m'amusent beaucoup.
Alors, il paraît que Nelson te ressemble, c'est vrai ?
Si on demande à mes proches, ils vont bien volontiers confesser que mon personnage est assez autobiographique, donc ce serait moi, que je suis pas d'accord évidemment. Depuis, j'ai des petits démons qui sont venus enrichir le team. Mais je crois pas que j'ai des démons depuis si longtemps. Il peut m'arriver d'être grognon, il peut m'arriver d'être de mauvaise foi. J'ai bon appétit, j'ai un bon coup de fourchette. Si je peux trouver une astuce pour éviter la corvée de vaisselle, je vais le faire. Enfin, je m'amuse beaucoup de ces petits travers. Et puis, j'ai l'impression que ça reste supportable parce que tout le monde est resté. Mais moi, je prétends me projeter dans tous mes personnages.
Ça fait 20 ans que Nelson existe. Est-ce que c'est facile de vivre avec un personnage depuis longtemps ou ça peut être un peu pesant ?
C'est une chance. Je considère comme une chance. Parce que non seulement ça continue à m'amuser, mais en plus, apparemment, ça continue aussi à amuser les lecteurs. Qui se renouvelle. Donc maintenant j'ai beaucoup de petits lecteurs qui n'étaient pas nés quand ça a commencé. Je crois que c'est plutôt une chance. Du moment que je m'amuse à le faire, c'est vrai que si c'était une corvée, peut-être ça se sentirait et le public le sentirait aussi. Mais pour le moment non, je pense que je suis plutôt béni des dieux, puisqu'on parle de démons, plutôt qu'une autre chose, et puis je me réjouis que ça continue.
20 ans et 5000 gags, comment tu arrives à trouver des gags chaque semaine ?
Je me rappelle qu'on a commencé, j'avais dessiné une quinzaine de gags, ou 18 gags, et puis c'était destiné au départ à une publication quotidienne dans un tabloïd suisse, et avec le rédacteur en chef, on a sélectionné parmi ces 18, on a sélectionné 12 pour les deux premières semaines. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais. Donc, j'en avais 12. J'ai dit, je vais tenir deux semaines, mais je ne sais pas si je vais trouver quelque chose après. Donc, j'ai eu très, très peur. Et puis, c'était il y a 20 ans. Et je commence à me dire maintenant, à chaque fois que je rentre un tout petit peu dans cette panique, je commence à me dire, mais relax, on va trouver quelque chose, il n'y a pas de problème. Et pour le moment, ça tient. Ça tient aussi parce que c'est très court. Il y a un tas de gags qui sont tellement stupides que je pourrais pas les tenir en longueur. Ils tiennent le coup parce qu'ils sont trois cases ou peut-être même moins. Mais c'est quelque chose de, en effet, c'est très technique. Mais une fois qu'on a compris un peu comment ça se passe, ben, c'est reproductible à l'infini.
C'est pas obsédant cette recherche de gags en permanence?
J'ai d'autres activités pour me laver un peu la tête. C'est vrai que c'est exigeant. Enfin, t'as raison, ça peut hanter, ça peut obséder. Donc je passe d'une activité à l'autre pour me reposer un peu. Puis une fois que je m'y mets, ben, je m'y colle à fond je transpire le gag. Mais je réfléchis pas en permanence, non.
Est-ce que parfois tu te censures ?
Non, honnêtement jamais, parce que je suis un bon garçon. j'ai tendance à faire un humour assez bon enfant, et puis j'ai jamais transgressé. Je dois m'auto-censurer naturellement et inconsciemment, parce que je me suis jamais dit tiens non, ça c'est vraiment affreux. Au contraire, il faudrait que je me fouette un peu pour aller un tout petit peu plus loin des fois. Ça reste une série familiale. Et puis j'aborde jamais des sujets. Je laisse à certains de mes collègues qui le font avec beaucoup plus de talent, des sujets compliqués, des trucs de religion ou de maladie. Enfin bref, ça se veut divertissant. Voilà, ça se veut divertissant. Et à ce titre, j'aborde que les sujets de société, des petites choses, des drames du quotidien, mais vraiment légères. Donc, je ne prends pas beaucoup de risques non plus, mais ça me correspond finalement assez bien. Je suis à l'aise avec ce registre, et puis je ne me suis jamais dit, oh là là, enfin, celui-là, je ne peux pas le mettre. J'ai eu, mais vraiment 20 ans, j'ai eu 10 lettres de gens outrés, souvent d'ailleurs parce que je n'ai pas bien compris le gag. Mais franchement, je suis toujours bien bien dans les clous.
Pourquoi as-tu choisi ce format original du strip, seulement 3 ou 4 cases pour un gag?
Je m'y suis tourné, je ne sais pas pourquoi. On a tendance souvent à aller faire le truc dans lequel on est plus à l'aise. Et puis, moi, spontanément, j'avais commencé sur le magazine de Titeuf. On m'avait dit, mais produit quelque chose. Et puis, sans réfléchir, je fais du strip. Parce que je pense que c'était le bon format qui me correspond bien. Une espèce de synthèse, un truc assez synthétique, rapide. Comme je suis un peu un fainéant, c'est très bien, parce que je ne fais pas trop de décor. Je vais à l'essentiel. J'ai pas réfléchi comme un fou. Je sais que beaucoup de mes collègues trouvent ça très compliqué. Puis moi, je trouve très compliqué de faire un album avec un récit de 46 pages. Et même une planche qui s'essouffle pas, qui soit bonne de la première à la dernière case, ça me paraît très compliqué. Alors que naturellement, je suis à l'aise avec ce format. Il est vrai assez nord-américain, assez anglo-saxon. Je sais pas si j'y ai bien fait parce que dès le début, les gens de la BD franco-belge m'ont mis en garde en disant ça marche jamais, ça chez nous ça marche pas. Et ça s'avère un peu exact parce que ça marche très bien en Suisse, en Belgique, mais en France ça a jamais vraiment décollé. Alors moi je dois bien reconnaître qu'un album de strip, moi je trouve un peu bourratif. J'aime bien lire deux pages maximum, puis après il me semble que les gags s'anesthésient les uns les autres. J'arrive plus à apprécier. Et donc les gens les enfants notamment qui se plongent dans mes bouquins puis qui les dévorent. Je suis toujours étonné.
Ton influence, c'est avant tout la BD américaine?
En effet, au fond, j'ai été gavé, pas vraiment gavé, parce que mes parents n'étaient pas lecteurs de BD, mais j'allais chez un oncle qui avait des grands, grands classiques, Astérix, Lucky Luke, Tintin et compagnie. Donc j'ai commencé vraiment avec la franco-belge. Puis ensuite, en effet, j'ai bien aimé plutôt le cartoon américain, et puis notamment les pas forcément du strip, il y a même des dessins en anglais, des New Yorkers, etc. Et puis, comme je suis revenu bien des années plus tard chez Dupuis, où j'étais très très flatté et très honoré de rentrer dans Spirou, il manquait vraiment beaucoup d'années de culture Spirou, parce que c'était pas mon j'avais pas beaucoup lu, donc je refais ma petite culture à tel qu'on veut.
À quoi ça ressemble l'endroit où tu travailles?
Je travaille chez moi, à quelques mètres entre mon lit et mon frigo. C'est une chance inouïe, une belle maison. Et puis, je travaille. Quand je suis tout seul, je travaille tout le temps, en gros. Et puis, ça me permet d'avoir du temps pour m'occuper de mes enfants quand ils sont là ou quand les week-ends où il se passe pas grand-chose. Là, je peux me consacrer aux enfants. Quand ils sont pas là, je lève la tête, puis c'est 2h du matin, puis je suis toujours là. Donc, c'est vrai aussi que nous avons la chance d'avoir un métier qui se confond avec une passion. Donc, il n'est pas question d'horaire, il n'est pas question de délai, il est juste question de plaisir. Donc, c'est absolument fantastique. Et puis, j'ai pas de rythme, j'ai pas d'horaire. Je travaille quand ça vient. Puis, quand ça vient pas, je me couche, puis je réfléchis à des gags. Donc, c'est des scènes assez drôles où les enfants me voient et ma femme disait, mais. Ne dérangez pas papa, il travaille. Alors j'étais couché à la cour, hein, dans un divan.
Alors en ce moment, en bande dessinée, c'est un peu la mode des reprises, hein, des grandes séries classiques. Tu aimerais t'attaquer à un personnage culte?
Je ne vois pas très bien me glisser dans l'univers de quelqu'un d'autre. Ou alors sur un gag, je ferais bien un mini-album sur Pierre-Louis, qui m'amusait follement, de Jean-Louis Pierre-Louis. mais je ne vois pas très bien. Je suis un peu vaniteux pour ça, peut-être. Je suis un peu trop vaniteux. J'ai pas envie de me glisser dans l'univers que quelqu'un d'autre aurait imaginé.
Alors aujourd'hui, beaucoup de jeunes dessinateurs essayent de se faire remarquer en publiant leurs dessins sur les réseaux sociaux. Ça peut fonctionner pour percer dans le milieu, d'après toi ? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner ?
Les gosses, ils ont bien compris, bien sûr. Ils ont tous des grosses communautés. Ils ont tous beaucoup de talent. La plupart des jeunes qui arrivent, ils sont bons. Il n'y a aucun problème pour ça. J'espère qu'ils arrivent à monétiser un petit peu leur communauté. Évidemment que le net, ça leur a pas échappé. C'est un super moyen pour se faire remarquer. Mais après, il faut essayer de faire entrer un peu d'argent tous les mois pour manger. Puis là, ça se complique un tout petit peu. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'argent dans les jeux vidéo, par exemple. Donc, c'est peut-être plutôt là qu'il faudra se tourner.
Alors, tu as des enfants ? Est-ce qu'ils s'inspirent de Nelson pour faire des bêtises ?
Non, ils sont gentils. Enfin, ils font les bêtises que font tous les enfants de 10 et 6 ans. Mais ni plus ni moins. Ils ont bien compris que c'est vraiment un catalogue de trucs à pas faire. Pour nous, ils s'inspirent pas de... Ils ont bien compris le décalage. Ils ont bien compris le pas en retrait.
Merci Bertie. Nelson, c'est chaque semaine dans Spirou, le 23e tome des aventures de Nelson, totalement ingérable et disponible en librairie. Nous, on se retrouve très vite sur Radio Fantasio.